À aucune époque le sexe faible n'a été traité avec autant d'égard de la part des hommes qu'à notre époque. C'est une conséquence de notre penchant et de notre goût foncièrement démocratique, tout comme notre manque de respect pour la vieillesse. Faut-il s'étonner si ces égards ont dégénéré en abus? On veut davantage, on apprend à exiger, on trouve enfin ce tribut d'hommage presque blessant, on préférerait la rivalité des droits, le véritable combat. En un mot, la femme perd de sa pudeur. Ajoutons de suite qu'elle perd aussi le goût, elle désapprend de craindre l'homme. Mais la femme qui désapprend la crainte sacrifie ses instincts les plus féminins. Quand les femmes deviennent hardies, quand ce qui inspire la crainte en l'homme, ou plus exactement quand l'homme en l'homme, n'est plus voulu et discipliné par l'éducation, c'est assez juste et aussi assez compréhensible. Ce qui est plus difficilement compréhensible, c'est que par là même, la femme dégénère. C'est ce qui arrive aujourd'hui, ne nous y trompons pas. Partout où l'esprit industriel a remporté la victoire sur l'esprit militaire et aristocratique, la femme tend à l'indépendance économique et légale d'un commis. La femme commis se tient à la porte de la société moderne en voie de formation. Tandis qu'elle s'empare ainsi de nouveaux droits, tandis qu'elle s'efforce de devenir maître et inscrit le progrès de la femme sur son drapeau, elle aboutit au résultat contraire avec une évidence terrible. La femme recule. Depuis la Révolution française, l'influence de la femme a diminué dans la mesure où ses droits et ses prétentions ont augmenté. Et l'émancipation de la femme, à quoi aspirent les femmes elles-mêmes, et non seulement de superficiels cerveaux masculins, apparaît comme un remarquable symptôme de l'affaiblissement et de l'énervement croissant des instincts vraiment féminins. Il y a de la bêtise dans ce mouvement, une bêtise presque masculine, dont une femme saine, qui est toujours une femme sensée, aurait eu honte au fond du cœur. Perdre le flair des moyens qui conduisent le plus sûrement à la victoire, négliger l'exercice de son arme véritable, se laisser aller devant l'homme, peut-être jusqu'au livre, là où jadis on gardait la discipline et une humilité fine et rusée, ébranler avec une audace vertueuse la foi de l'homme en un idéal foncièrement différent, caché dans la femme, en un éternel féminin quelconque et nécessaire, enlever à l'homme, avec insistance et abondance, l'idée que la femme doit être nourrie, soignée, protégée, ménagée comme un animal domestique, tendre, étrangement sauvage et souvent agréable. Rassembler maladroitement et avec indignation tout ce qui rappelait l'esclavage et le servage, dans la situation qu'occupait et qu'occupe encore la femme dans l'ordre social, comme si l'esclave était un argument contre la haute culture, et non pas un argument en sa faveur, une condition de toute élévation de la culture. De quoi tout cela nous est-il la révélation, sinon d'une déchéance de l'instinct féminin, d'une mutilation de la femme? Sans doute il existe parmi les ânes savants du sexe masculin assez d'imbéciles amis et corrupteurs des femmes qui conseillent à ces dernières de dépouiller la femme et d'imiter toutes les bêtises dont souffre aujourd'hui en Europe l'homme, la virilité européenne, qui aimerait avilir la femme jusqu'à la culture générale, ou même jusqu'à la lecture des journaux et jusqu'à la politique. On veut même de ci de là changer les femmes en libres penseurs et en gens de lettres, comme si la femme sans pitié n'était pas pour l'homme profond et impie une chose parfaitement choquante et ridicule. On gâte presque partout leurs nerfs avec la plus énervante et la plus dangereuse musique qui soit, notre musique allemande moderne. On les rend de jour en jour plus hystériques et plus inaptes à remplir leur première et dernière fonction, qui est de mettre au monde des enfants solides. On veut les cultiver encore davantage et, comme on dit, fortifier le sexe faible par la culture, comme si l'histoire ne nous montrait pas, aussi clairement que possible, que la culture de l'être humain et son affaiblissement, c'est-à-dire l'affaiblissement, l'éparpillement, la déchéance de la volonté, ont toujours marché de pair, et que les femmes les plus puissantes du monde, celles qui ont eu le plus d'influence, comme la mère de Napoléon, étaient redevables de leur puissance et de leur empire sur les hommes à la force de volonté, et non à des maîtres d'école. Ce qui, chez la femme, inspire le respect et plus souvent la crainte, c'est sa nature, qui est plus naturelle que celle de l'homme, sa souplesse et sa ruse de fauve, sa griffe de tigresse sous le gant, sa naïveté dans l'égoïsme, la sauvagerie indomptable de son instinct, l'immensité insaisissable et mobile de ses passions et de ses vertus. Ce qui, malgré la crainte qu'on éprouve, excite la pitié pour cette chatte dangereuse et belle, la femme, c'est qu'elle paraît être plus apte à souffrir, plus fragile, plus assoiffée d'amour, et condamnée à la désillusion plus qu'aucun autre animal. La crainte et la pitié, animés de ces deux sentiments, l'homme s'est arrêté jusqu'à présent devant la femme, un pied déjà dans la tragédie qui, tandis qu'elle vous ravit, vous déchire aussi. Et quoi? Cela finirait-il ainsi? Est-on en train de rompre le charme de la femme? Se met-on lentement à la rendre ennuyeuse? Ô Europe, Europe, on connaît la bête à cornes qui a toujours eu pour toi le plus d'attrait et que tu as encore à redouter. Ton antique légende pourrait une fois de plus devenir de l'histoire. Une fois encore, une prodigieuse bêtise pourrait s'emparer de ton esprit et t'entraîner. Et nul dieu ne se cacherait en elle, non, rien qu'une idée moderne.